La chanson dit que tout ira bien pour tout le monde.
Voilà, un aperçu de l'état d'âme des Ukrainiens à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion. Et pour ce débat, nous avons via Skype de Paris Sadio Morel-Kanté, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Nous avons de Kinshasa Henri-Désiré Nzouzi, producteur de JT Diplomatique, analyste géopolitique. Et ici à Washington, Michael Sherkin, politologue, directeur des programmes mondiaux chez 14 North Strategies. Vous êtes également expert en sécurité et défense internationale. Donald Trump veut mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine. On l'avait dit, le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre une capitulation de l'Europe, de l'Ukraine. La première ministre italienne Giorgia Meloni a aussi demandé hier que des garanties de sécurité soient données à Kiev dans le cadre de l'OTAN si l'on veut parvenir à une paix juste et durable en Ukraine. Et le premier ministre britannique Keir Starmer vient aujourd'hui à Washington avec le même message. Madame Morel-Kanté, peut-on parler à ce stade d'une différence fondamentale dans les visions européennes et américaines sur la fin de la guerre en Ukraine?
Il s'agit de moi? Oui. Mais la fin de la guerre en Ukraine est une vaste question. Moi, on ne voit pas comment, parce que jusqu'à présent, Donald Trump tâtonne.
C'est la question, c'était précisément sur la vision américaine et européenne, sur cette fin de la guerre. Comment les deux parties conçoivent à la fin de la guerre?
La fin de la guerre doit passer par des négociations, mais des négociations qui coûteront cher à l'Ukraine. Parce que si l'Union européenne ne met pas vraiment la main à la pâte à hauteur des souhaits, rien ne se passera et que l'Ukraine devra perdre ses terres rares et aussi des localités comme la Crimée, Sébastopol et Donbass. Ce sera ça qu'il faudra mettre dans la balance pour la paix, sinon il n'y a pas de possibilité.
Alors, après le coup de fil entre Donald Trump et le président russe il y a quelques jours, et la rencontre à Riyad entre responsables américains et russes sans l'Ukraine et les Européens, de nombreux analystes ont évoqué un changement dans l'approche américaine. Monsieur Sherkin, est-ce que vous comprenez ce que certains qualifient aujourd'hui de revirement de la vision de Washington?
Malheureusement, il faut constater qu'il y a un changement profond dans l'approche américaine à la sécurité européenne et aussi dans les rapports entre les États-Unis et ses alliés. C'est-à-dire que Trump a remis en question toute une structure de sécurité qui durait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se demander jusqu'où le président va aller. Parce qu'il a tant remis en question toute l'approche, toute la philosophie, tout le consensus qui régnait en Washington jusqu'à récemment de tous les côtés de la politique. C'est-à-dire, jusqu'ici, les démocrates et les républicains ont été plus ou moins d'accord avec le fait que l'OTAN était nécessaire et important et que servait aux intérêts nationaux des États-Unis, de protéger l'Europe et d'avoir des liens très proches avec les alliés. Maintenant, on a remis tout cela en question.
Le président ukrainien a assuré dimanche être prêt à quitter son poste à condition que son pays adhère à l'OTAN et que la Russie soit dissuadée de toute nouvelle agression. Ma question est, que signifierait aujourd'hui, pour l'Europe surtout, une capitulation de l'Ukraine, M. Nzouzi?
Écoutez, on a bien compris que si négociation il y a, ce sera à trois niveaux. Le premier niveau, évidemment, on l'a vu, c'est ce marchandage avec l'Ukraine pour les terres rares. Le second niveau, c'est avec la Russie pour essayer, en tout cas, de ne pas trop contrarier les ambitions hégémoniques de la Russie en Ukraine. Et puis au niveau européen, pour s'assurer tout simplement que l'Europe prendra toute sa part dans le processus de pacification de l'Ukraine, en sachant par ailleurs qu'il y a déjà, à l'heure actuelle, un contentieux entre l'Europe et les États-Unis. Maintenant, Zelensky n'a pas les cartes en main. Malheureusement, on a très bien vu qu'en revenant sur sa première décision, qui consistait à ne pas accepter les conditions qui lui étaient imposées par Donald Trump, eh bien, il a quand même décidé, moyennant certaines conditions, il n'est pas certain non plus que ces conditions résistent à l'épreuve des faits. Encore une fois, car Zelensky n'est pas en position de force. Il a une opinion publique qui est profondément lassée. Il a aujourd'hui un adversaire qui semble se rapprocher des États-Unis, qui semble aussi d'une certaine manière tolérer d'une certaine manière l'activisme de la Russie en Ukraine. Et puis vous avez les Européens qui ont énormément contribué, mais qui sont malheureusement relégués à la cuisine, ils ne sont pas à la table des négociations. S'ils doivent rejoindre cette table, ce sera évidemment à des conditions américaines qu'il faudra malheureusement essayer de négocier.
Le président américain a déclaré hier que les États-Unis ne fourniraient pas de garantie de sécurité à l'Ukraine dans le cadre de cet accord visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, mais que cela reviendrait à l'Europe. Ma question est, jusqu'où iraient les Européens aujourd'hui? Sont-ils prêts, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour soutenir l'Ukraine, sachant que l'aide américaine est essentielle pour l'Ukraine? Madame Sadio Morel, vous avez une idée sur cette question?
Que Macron a tenu une réunion avec l'Europe. Il n'y a que 9 pays qui se sont présentés. Et parmi les 9, il n'y a déjà pas l'Angleterre dans l'Europe sur beaucoup de plans. Et parmi ceux-là, beaucoup n'ont pas la même position. La division de l'Europe fera que Donald Trump mettra la barre où il veut et il faudrait qu'il s'y fasse dans ce cas-là. Alors que s'ils se mettent ensemble, surtout économiquement, pour soutenir vraiment efficacement cette guerre pour soutenir l'Ukraine dans l'effort de guerre, ça pourra aller. Mais la mésentente des Européens crée un problème qui arrange Trump, arrange également la Russie, qui se mettent ensemble finalement pour casser l'Europe à travers cette guerre de l'Ukraine.
Si je vous suis bien, vous pensez plutôt que l'Europe est actuellement désunie face à la question ukrainienne, Madame Morel?
Oui, elle n'est pas sur la même longueur d'onde parce que on ne les voit pas tous ensemble parler d'une même voix et mettre la main dans la poche pour soutenir l'Ukraine. Et même depuis plus tôt que ça, lorsqu'il a été question de mettre 2% de leur budget pour soutenir l'effort de l'OTAN, on ne les a pas vus venir massivement le faire. Donc tant qu'on ne mettra pas, on se mettra pas ensemble pour être d'accord que c'est l'argent qui fait la guerre, et qu'ils voient chacun son intérêt, parce que l'Allemagne a un intérêt autre avec l'Ukraine et la Russie que la France et que les autres pays. Donc oui, ils sont vraiment divisés concernant cette question ukrainienne, du moins en ce qui concerne sa gestion économique et financière.
Pour revenir sur les approches américaines et européennes, l'Europe semble aujourd'hui privilégier une solution diplomatique à long terme, tandis que Washington mise plutôt sur des accords stratégiques immédiats. Ma question est, laquelle des deux approches est plus viable pour l'Ukraine, M. Shurkin?
Les deux approches sont importantes, mais au fait, enfin, il faut se rendre compte du fait que ce qu'on appelle le pouvoir d'heure reste très important. C'est-à-dire, il est convenable de dire qu'on peut parler, il faut chercher des solutions diplomatiques, mais derrière les solutions diplomatiques, ils doivent avoir la force. Et il est vrai que les Européens, bien que les Européens aient fourni des armes, etc., mais à une échelle assez bas. Et pour que les Européens aient une place à la table, il faut qu'ils exercissent un peu plus de force, qu'ils investissent un peu plus dans l'Europe, parce que ce n'est que, malheureusement, dans ce monde, il faut avouer qu'il faut avoir la force. Si on va chercher une solution diplomatique, il faut que les termes soient plutôt influencés par la situation sur le terrain, par la guerre, la situation sur la guerre, ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on peut poursuivre des négociations et essayer d'avoir une position de négocier dans laquelle on peut poursuivre ses propres intérêts.
Et avec ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme une nouvelle approche de Washington, certains analystes parlent d'un affaiblissement de l'Europe. Tout à l'heure, Madame Morel-Canté parlait d'une forme de désunion des pays européens. D'abord, qu'en est-il aujourd'hui de l'unité occidentale face à la Russie, Monsieur Nzouzi?
Elle est à géométrie variable. Vous avez des pays comme la Hongrie, par exemple, ou la Tchéquie, dans une moindre mesure, qui, d'une certaine manière, ont toujours été en opposition par rapport aux options qui avaient été levées par l'Union européenne. Vous avez aussi une sorte de tolérance par rapport à ces velléités hégémoniques à un moment précisément où l'Europe se trouve face à ses propres responsabilités. Comment assurer son parapluie au moment où Donald Trump demande aux Européens une beaucoup plus grande prise de risque pour pouvoir continuer à bénéficier de cette protection? Comment peser face à une Amérique qui aujourd'hui montre à quel point elle n'a pas besoin de l'Europe pour régler certains problèmes et qui pose précisément le problème de l'avenir de l'OTAN? On voit bien que c'est un débat existentiel pour les Européens. D'un côté, il s'agit de faire bonne figure après avoir soutenu à bout de bras l'Ukraine, et de l'autre, c'est de ne pas perdre la face face à une Amérique qui est aujourd'hui hégémonique, velléitaire, et qui aujourd'hui pousse les Européens dans ces derniers retranchements, les obligeant, malheureusement, il faut bien le dire, hein, à opter pour des stratégies qui sont parfois divergentes. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas encore fait la démonstration de son unité. On a véritablement une Europe à la carte par rapport à la résolution du conflit en Ukraine.
Et que pensent nos téléspectateurs de ces discussions en cours sur la guerre en Ukraine? Je vous propose quelques commentaires recueillis sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons l'Asgasek de Dakar au Sénégal qui nous dit que les minerais ukrainiens ne doivent pas servir de monnaie d'échange qui leur permette de bénéficier de la protection des États-Unis. Ce serait trop facile selon lui. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, lui, pense que ces divergences s'inscrivent dans la protection des intérêts de chaque puissance, ignorant la situation des pauvres qui crèvent, qu'on admette la position la plus simple et pacifique pour arrêter de compter les morts des orphelins, des affamés, des réfugiés et des déplacés. Nous avons aussi la réaction d'Alassane Ouattara de Grand-Bérébi en Côte d'Ivoire qui dit « Pauvre Ukraine, on encourage à faire une guerre et après on veut t'aider en contrepartie de tes minéraux. L'Afrique doit tirer des leçons de tout ce qui se passe. » Merci pour vos différents commentaires. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités. Washington Forum sur VOA Afrique.
Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum sur VOA Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous nous intéressons aux négociations entre Américains et Européens pour la fin de la guerre en Ukraine à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion. Et pour cette discussion, je suis avec Sadio Morel-Kanté, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, qui est en ligne depuis Paris. Nous avons de Kinshasa Henri-Désiré Nzouzi, producteur de JT diplomatique, et ici à Washington, Michael Sherkin, politologue et directeur des programmes mondiaux chez Fortin North Strategies. Le dirigeant ukrainien, je l'avais annoncé, Volodymyr Zelensky, est annoncé à Washington ce vendredi. Selon les médias américains, il vient pour signer un accord sur les minerais de l'Ukraine. Le président Trump a présenté l'accord qui se dessine et qui permettra aux États-Unis d'accéder aux gisements de terres rares ukrainiens comme une chance pour l'Ukraine de rembourser les États-Unis pour l'aide qu'ils ont déjà envoyée à Kiev. Monsieur Sherkin, est-ce que vous comprenez la position américaine sur les minerais ukrainiens?
Non, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu immonde, parce que je sais, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que les États-Unis ont prêté de l'argent aux alliés, à la Grande-Bretagne et à la France, par exemple, mais le soutien des États-Unis pour la France et la Grande-Bretagne n'était jamais conditionnel. On n'a jamais dit à la Grande-Bretagne et à la France, bon, on va changer le camp si vous nous donnez de l'argent.
Peut-être une petite précision sur comment l'aide, et ce qu'on appelle aide, a été apportée à l'Ukraine. Parce que le président américain disait il y a quelques jours à l'accueil d'Emmanuel Macron ici à Washington que l'Europe fait un prêt à l'Ukraine alors que les États-Unis ont fait un don à l'Ukraine. Les États-Unis ne sont-ils pas en droit aujourd'hui de réclamer un remboursement? Si vous avez une petite précision sur comment l'aide a été fournie à l'Ukraine.
Oui, mais je ne crois pas que... Bon, je ne sais pas exactement, je crois que Macron a dit que non, ce n'est pas vrai qu'on a prêté de l'argent à l'Ukraine.
Exactement.
Mais si, il faut dire que plus de 70% de l'argent américain pour l'Ukraine était dépensé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a donné des armements aux Ukrainiens, mais on a dépensé l'argent aux États-Unis pour acheter des armes, pour remplacer des armes qu'on a données aux Ukrainiens. C'est-à-dire que cet argent est allé dans l'économie américaine et on a embauché des gens pour travailler dans les usines américaines. Alors, ce n'est pas comme si on a donné tout cet argent en fric aux Ukrainiens à faire comme ils voulaient. Mais comme j'ai dit aussi, c'est un peu... je comprends à un certain niveau l'idée qu'il faut chercher un retour pour l'investissement, mais c'est quand même un peu bizarre. C'est une question d'enchantage, de demander l'argent, sinon on va imposer la paix, on va imposer une paix dictée par le Moscou. Ça, c'est nouveau et assez sans précédent. Et rien en commun avec le comportement des États-Unis vis-à-vis des Alliés pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Alors c'est un peu étrange, mais ça démontre qu'effectivement le président Trump, il voit le monde des rapports internationaux d'une façon des échanges, des quiproquos. Donc il faut, tu dois s'exprimer comme une transaction dans laquelle les intérêts concrets sont réalisés concrètement. Et il ne s'intéresse pas aux intérêts abstraits. Et quand je dis ça, les intérêts abstraits, je dis ça parce que il faut constater que pour les États-Unis, c'est toujours clair que même si on dépensait la plupart d'argent, c'était dans les intérêts indirects des États-Unis d'avoir des bons amis, d'avoir des alliés, d'avoir des très bons rapports avec le Canada, par exemple. Alors, donc, peu importe s'il y a un déséquilibre entre les échanges avec le Canada, parce que ça nous convient absolument d'avoir un allié, un ami à notre frontière. Mais pour Trump, c'est différent. C'est-à-dire, ces abstractions ne lui intéressent pas. Il faut avoir l'argent sur la table.
Madame Morey, quel est votre avis sur cette question, sur l'aide apportée à l'Ukraine et aussi ce que pense l'Europe de cet accord si jamais Ukrainiens et Américains venaient à le signer?
Oui, mais je crois que Trump, dans ce cas-là, a besoin, il voit l'isolationnisme. Hein, économiquement, il est en train d'étouffer. Il est en train de pousser les Américains à dépenser plus à cause des taxes et des impôts supplémentaires qu'il va mettre sur les pourcentages supplémentaires, pardon, qu'il va mettre sur les autres pays. Donc ça va coûter cher à l'Amérique et donc il faut reconstruire, maintenir l'industrie américaine à nouveau. Je pense que c'est pour cela qu'il a besoin de cet arrière-là qu'il a mis sur la table comme objet de négociation pour pouvoir, dans l'intérêt de l'industrie américaine, et que voilà, c'est son point de vue et il met beaucoup de force de son côté en mettant de côté le droit international et tout ce qui jusqu'à présent constitue les relations entre les pays dans le respect des lois. Ça, il montre clairement que c'est pas ce qui l'intéresse et que l'Ukraine vraiment va pâtir, et surtout que Zelensky est prête, si c'est sa personne qui dérange, selon ce que lui-même a dit, de quitter le pouvoir, et tout ça pour plaire beaucoup plus à Trump que d'obéir à sa constitution qui a mis en 2015 un texte qui dit que tant que le pays est en guerre, le président reste. Donc le poids de Donald Trump sur Zelensky se ressent, je crois qu'il déprime. S'il y a des psychologues parmi nous pour comprendre l'état aujourd'hui de Zelensky, il est en train de déprimer, prêt à tout lâcher.
Mais 3 ans de guerre, c'est épuisant. 3 ans de guerre, ça doit être épuisant, non seulement sur le moral, mais aussi financièrement.
Et puis l'arrivée de Trump, un mois seulement sur le terrain de Trump, là encore davantage épuisé. Voilà pourquoi dans une partie de ce reportage, on a vu que les 88% des Ukrainiens qui étaient optimistes le sont de moins en moins parce que c'est épuisant et le rythme de Trump également est intenable.
Monsieur Nzouzi, un avis sur cette question?
Oui, écoutez, depuis le 24 février 2022, le droit international a été piétiné, donc il n'est pas anormal que dans ce désordre organisé d'une certaine manière, les États-Unis viennent avec des conditionnalités qui peuvent effectivement heurter les bonnes consciences. Aujourd'hui, cette approche mercantile permet tout simplement de pousser toutes les parties dans leur dernier retranchement. Vous savez, quand on parle de garantie sécuritaire, pendant que les États-Unis négocient l'accès aux terres rares avec l'Ukraine, cela signifie d'une certaine manière que si demain, on imagine que l'Europe fournit des troupes pour éventuellement surveiller l'effectivité du cessez-le-feu, ce sera aussi indirectement pour protéger les intérêts des États-Unis qui auront déjà commencé à exploiter ces terres rares. Donc on voit très bien finalement dans cette affaire qu'il y a énormément d'intérêts, pas forcément convergents mais antagonistes, qui s'imbriquent les uns avec les autres. Une Amérique qui pousse son avantage, une Russie qui entend préserver aussi l'avantage sur le terrain, avec notamment le Donbass et la Crimée, on l'aura compris, et une Europe qui ne souhaite pas perdre la face en essayant également de peser et peut-être même, pourquoi pas, être de la partie pour le processus de reconstruction de l'Ukraine.
Je reste avec vous pour comprendre un tout petit peu ce que représenterait un tel accord pour l'Ukraine si jamais les deux parties venaient à le signer, Monsieur Nzouzi.
Oui, ben écoutez, ce qu'il faut simplement espérer que effectivement il y ait un retour à la paix, mais je ne suis pas certain que les États-Unis soient favorables à une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Par contre, une entrée dans l'Union européenne peut effectivement s'envisager tant que cela ne contrarie pas les ambitions de la Russie d'une part, mais surtout les intérêts américains qui seront confortablement installés fort de cet accord avec l'Ukraine.
Et finalement, quelle est la meilleure solution pour faire taire les armes? Monsieur Chorkin, une idée?
La meilleure façon pour
J'aime
faire taire les armes...
J'aime bien votre rire, pour commencer.
Oui, mais je crois que la meilleure façon de faire taire les armes, ce serait les victoires, ou plutôt des victoires sur les terrains, sur les champs de bataille, dans lesquels l'Ukraine se montre fort, et dans lesquels aussi l'Union européenne se montre fort et unie, et l'OTAN se montre fort et unie. Et comme ça, il y a un message très clair à la Russie que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus essayer de tenter des telles agressions. Et j'ai peur que si on impose une paix sur l'Ukraine, la leçon pour la Russie va être qu'on peut continuer. C'est-à-dire qu'ils vont simplement attendre un peu et puis essayer encore une fois. Et aussi, si la Russie réussit, et ça c'est très très important, si la Russie voit la désunion entre les alliés, ça va encourager la Russie. Donc il faut qu'on se montre unis face à la Russie. Et malheureusement, je crois que cette union est en train de se défaire et se désintégrer.
Madame Morel, en quelques mots, quelle serait selon vous la solution idéale pour mettre fin à cette guerre en Ukraine?
Ben, il faut être contre Trump, c'est-à-dire lui imposer la force face à la force. Et je n'encouragerais personne à bafouer le droit international, mais vu qu'ils s'en moquent, il faudrait que l'Europe comprenne qu'il faut qu'ils se mettent ensemble, imposer la force face à la diplomatie et face au droit international. Sans cette force dont use Donald Trump, tout ira à volo et ça sera fatal pour l'humanité. Hein. Je ne dis pas seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité tout entière, parce que économiquement déjà, les ressentis depuis les premiers temps étaient sur tous les continents. Et je crois que si ça ne prend pas fin, le plus tôt possible, ça sera très difficile pour tout le monde.
Je vous remercie, Sadio Morel-Kanté, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous également, Henri-Désiré Nsouzi, producteur de JT diplomatique, analyste géopolitique, et Michael Chorkin, politologue. Merci pour votre contribution à ce débat Washington Forum sur VOA Afrique. Et merci à vous qui nous suivez à travers nos télévisions partenaires en Afrique et également sur nos réseaux sociaux, YouTube notamment. C'est la fin de ce débat. Je vous retrouve avec plaisir jeudi à 19h en temps universel pour de nouveaux sujets. Bonne soirée avec les programmes de VOA Afrique.